Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui, pour parler de mer chaude, à la fois par le climat et par les tensions qui y montent depuis quelques mois ou quelques années, à savoir le Pacifique, la présence et la souveraineté française dans la zone, et les questions stratégiques qui se posent notamment dans un contexte de montée en puissance chinoise, j'ai le plaisir de recevoir le contre-amiral Jean-Mathieu Rey, commandant de la zone et des forces maritimes dans le Pacifique, commandant aussi des forces armées en Polynésie française, fonction qu'on appelle généralement pour faire court dans le jargon militaire Alpaci, c'est-à-dire amiral en charge du Pacifique, comme il y a à l'Indien, un peu plus à l'ouest, pour l'amiral en charge de l'océan Indien. Donc bonjour amiral, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Alors je précise que vous êtes évidemment habituellement basé à Tahiti, donc on vous remercie grandement de consentir au sacrifice de faire un crochet par l'école militaire pour cette émission. C'est un site qui est évidemment un peu moins exotique que votre base arrière, mais on a fait un effort sur la météo en cette mi-juin qui est tout à fait chaude et étouffante pour que vous ne soyez pas trop dépaysé à Paris. Alors, évidemment, on va beaucoup parler de votre zone de commandement et des enjeux qui s'y attachent, parce que c'est une région qui a été immensément importante pour l'armée française pendant toute la période des essais nucléaires en Polynésie, et particulièrement à Mururoa, donc des années 1960, quand on cesse de les faire en Algérie, jusqu'aux années 1990. Elle a un peu baissé en importance quotidienne, disons, depuis la fin des essais nucléaires en 1996, mais elle remonte très clairement en importance et en centralité stratégique, notamment dans le cadre de l'attention très poussée depuis quelques années à la notion ou au concept d'Indo-Pacifique en France et ailleurs. Mais simplement, quand je reçois un officier supérieur de haut rang, un étoilé comme on le dit, j'aime bien commencer par une partie un peu plus personnelle et parler un peu de votre carrière dans la marine, d'abord parce que c'est généralement très intéressant, mais aussi parce que ça dit toujours quelque chose de la manière dont les armées sont faites et fonctionnent, et en fait des différentes fonctions et services qui sont plus ou moins visibles dans les armées, en l'occurrence dans la marine nationale, et on va voir que c'est particulièrement le cas ici. Alors amiral, commençons par là. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu marin? C'est une question que je pose souvent, et souvent c'est un diptyque pour les marins, c'est est-ce que c'était pour être marin? Est-ce que vous auriez pu faire autre chose rattaché à la mer? Ou est-ce que vous aviez envie de devenir militaire et que vous auriez pu servir peut-être dans une autre branche des forces armées?
Alors, autant que je m'en souvienne, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai grandi à Marseille. Donc à Marseille, on dit qu'on a le plus grand port de France. Mais en tous les cas, j'ai grandi dans un grand port et ça m'a tout de suite appelé au voyage, et c'est ça que je voulais faire. Je voulais voir au-dessus de l'horizon, quand on est sur le vieux port, aller voir de l'autre côté ce qu'il y a. Donc c'est vraiment le voyage que j'ai été chercher. Et pour répondre à votre question, oui, j'aurais pu être marin marchand. Mais à ma génération, c'était une époque où on ne recrutait pas. Et donc les copains qui, comme moi, ont voulu être marins et qui ont pris la voie de la marine marchande, ont beaucoup moins navigué que moi. Ils sont devenus ingénieurs dans des entreprises. Donc je crois avoir fait le bon choix, moi qui voulais voyager, j'ai été servi.
Ouais, on va y revenir, mais simplement, quand vous, bah alors vous avez évidemment passé le concours de l'école navale, puisque c'est la voie pour devenir officier, est-ce que vous saviez tout de suite ce que vous vouliez faire à l'intérieur? Parce qu'on sait que bon, y a des grands aiguillages assez rapidement, notamment de savoir si on veut aller dans les sous-marins. Bon, est-ce que vous saviez tout de suite que vous aviez justement envie de voir l'horizon plutôt que les contours d'un sous-marin? Est-ce que ça a été un peu au gré des occasions aussi, comme ça arrive parfois?
Alors, c'est souvent des affaires de rencontres, mais j'avais été attiré donc par le voyage. Quand je me suis intéressé à la marine nationale, j'ai été émerveillé, enthousiasmé par l'histoire des fusiliers marins, des commandos marines. Et donc en rentrant dans notre belle marine, c'est une spécialité, celle de fusiliers marins et commandos marines, qui m'a assez rapidement attiré.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est évidemment un détail qui a retenu mon attention, c'est que en sortant de l'école navale, vous avez très rapidement servi dans les commandos marines, particulièrement dans le commando Trépel. Donc alors les commandos ont un peu changé, disons, de géométrie depuis. Mais peut-être dites-nous, parce qu'on a fait assez récemment une émission à l'école navale, et on voit que c'est pas pour tout le monde les commandos, il y a une sorte de disposition d'esprit quand même pour avoir envie d'entrer dans les commandos marines. Alors voilà, qu'est-ce qui vous a plu? Enfin, c'était l'envie, je sais pas, de se faire mal, de se dépasser. C'était l'envie d'avoir un truc un peu plus transversal que officier de carte. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui vous a attiré directement?
Moi, ce qui m'a attiré dans les commandos, d'abord, j'ai commencé par le voyage, parce que j'ai quand même commencé dans le Pacifique, à Tahiti, ma première affectation en sortant de la Jeanne d'Arc. Donc, le cursus de formation, c'est la Polynésie pendant 2 ans et le Pacifique, avec la découverte de l'Extrême-Orient, mais aussi les côtes ouest des Amériques. Donc il y avait le voyage, et puis il y avait aussi cette volonté d'engagement, que j'ai déjà trouvé dans les bâtiments de surface, mais cette volonté de se dépasser physiquement, et cet engagement militaire de haute intensité, parce qu'à l'échelle d'une escouade, qu'on peut engager au Liban, ou pour reprendre de vive force un bateau, il y avait ce combat qui m'attirait effectivement lorsque j'étais en scène de vaisseau et que j'avais 20 ans, c'est vrai.
Parce que Trépel, on peut préciser qu'une de leurs spécialités, c'est notamment l'arraisonnement de vive force, c'est ouais. Notamment la capacité. Alors je l'ai dit, les commandos, ça a changé, ils ont été réorganisés, les spécialités ont changé, mais à l'époque, c'était vraiment aborder un bateau, ce qui est beaucoup moins évident toujours que ce qu'on s'imagine.
C'est effectivement, c'était les missions, alors ce qu'on faisait à l'époque, c'était l'évacuation de ressortissants de hautes autorités, donc c'était l'époque où on a été chercher... on est dans le début des années 90, le général Aoun, par exemple, ce sont des commandos marines qui, avec un bateau de la Marine nationale, ont
donc
été...
Le général Aoun au Liban,
voilà, dans le cadre de la guerre civile, qu'il s'est agi d'extraire. C'est la Marine nationale, avec un bateau de surface et avec ses commandos, qui a été le chercher, l'extraire. Mais c'était aussi, comme vous le dites, les reprises de vive force, et à l'époque, c'était contre les Espagnols. Il y a eu des actions extrêmement violentes.
On oublie tout ça, mais la pêche espagnole dans le golfe de Gascogne, ça a été vraiment quelque chose de très chaud à une certaine époque, et au point qu'il fallait engager des commandos. C'est pas forcément ce qu'on imagine quand il s'agit de bateaux de pêche, mais c'était...
C'est-à-dire qu'il peut y avoir un moment besoin d'intervenir avec des gens qui maîtrisent l'emploi de la force physique, humaine individuelle, dans les forces armées françaises, vous avez les commandos marines si vous intervenez en mer. C'est typiquement ce que l'on fait aujourd'hui au large de la Guyane, lorsque les tapouilles brésiliennes pêchent pour les forcer à dégager. Vous êtes obligé d'aller les saisir. Vous avez des gens qui attendent nos hommes avec des coupes-coupes. Ou des gaffes, ou quelquefois des fusils de chasse, et donc on envoie les commandos marines.
Mais du coup, la question corollaire que je pose aussi souvent, spécialement quand j'ai affaire à quelqu'un qui a vécu des engagements comme ça, qu'est-ce que vous considérez comme votre baptême du feu ? Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, les commandos, ça semble assez bien correspondre à ça, mais en même temps, c'est éminemment subjectif, et puis je peux dire tout de suite que, peu de temps après, vous avez aussi fait partie des forces de surface, notamment dans le cadre du conflit en Yougoslavie, où il y a eu un blocus, où il y a eu des moments où ça a été aussi très chaud à l'intérieur, au sein des flottes de surface et plus dans les commandos. Donc vous, à l'échelle de votre carrière, s'il y a un moment, quel est le moment que vous considérez comme votre baptême du feu ?
Le baptême du feu, ça a été une action de reprise de vive force d'un pêcheur espagnol, on l'a évoqué. Mais à peine quelques années plus tard, dans l'embargo contre l'ex-Yougoslavie, nous escortions le bateau sur lequel j'étais. Nous escortions un cargo qui s'appelle le Cap Afrique, et avec lequel nous devions transporter du fret humanitaire pour les populations. Il y a eu une tentative de l'armée adverse de saisir ce bâtiment, et donc... Il a fallu, avec l'équipe de visite de la VISO sur laquelle j'étais, s'opposer à cette action. Donc là aussi, avec pour le coup des marins qui n'étaient pas des commandos marines, nous avons dû nous opposer. Et donc là aussi, c'était, ça a été chaud quelques heures.
Ouais. Alors ce qui est intéressant aussi dans votre carrière, et surtout quand on le met en parallèle de vos fonctions actuelles, c'est que comme vous l'avez déjà dit, vous avez servi très tôt dans le Pacifique, donc d'abord à Tahiti, au moment des essais nucléaires d'ailleurs, puis ensuite quelques années plus tard, vous avez pris le commandement d'un patrouilleur à Nouméa, ce qui est aussi globalement dans votre zone de commandement aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter en quelque sorte votre première appréhension de ce domaine, de cet espace particulier, de ces missions de la Marine nationale dans le Pacifique que vous avez connu donc assez tôt quand même dans votre carrière ?
Alors, la France dans le Pacifique, c'est d'abord un territoire français avec une population qui n'est pas très nombreuse. Il y a un peu moins de 300 000 Français qui vivent en Polynésie, un peu moins de 300 000 qui vivent en Calédonie, donc on a un demi-million de Français qui vivent dans le Pacifique Sud. Si on rajoute Wallis et Futuna, on dépasse ce demi-million. Des espaces immenses, des gens très majoritairement très attachés à notre République. À l'époque, et encore aujourd'hui, moi c'est ce que je vis en Polynésie. Et donc une mer omniprésente en Polynésie. On dit souvent la Polynésie, la taille de l'Europe, c'est une réalité. Hein. Quand vous allez de Tahiti aux Marquises au nord ou aux Australes au sud, c'est plusieurs jours de mer à chaque fois. Donc c'est l'immensité bleue des gens qui, dans ce Pacifique Sud, à près de 20 000 km de la France métropolitaine, parlent notre langue et partagent nos valeurs. Moi, c'est ça qui m'avait marqué à l'époque.
Et est-ce que, déjà, vous êtes dit, hein, dans un coin de votre tête à l'époque, ce serait bien d'y retourner un jour? Alors, je ne sais pas si vous pensiez déjà y retourner avec des étoiles, mais est-ce que vous vous êtes dit, bon, c'est vraiment une belle mission et que je referais bien un jour d'une autre manière, un autre niveau de responsabilité, quoi?
Moi j'ai eu la chance de servir Outre-mer et dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Indo-Pacifique à de nombreuses reprises. J'ai été basé, je l'ai dit, à Tahiti, à Nouméa, également à La Réunion, hein, où j'ai commandé une frégate, la frégate Nivose, à partir de Toulon aussi, très souvent sur les frégates avec le groupe aéronaval, avec le porte-avions, déployé à partir de Toulon dans l'océan Indien, plus la mer Rouge, le golfe arabo-persique. Donc j'ai souvent été déployé dans cette zone-là et j'ai rapidement pris conscience de l'importance pour notre pays, pour ses approvisionnements, pour sa prospérité, tout le commerce associé à cette région du monde. Et puis encore une fois, les Français qui y vivent, hein, parce que si vous rajoutez La Réunion, Mayotte, vous avez plus d'un million et demi de Français qui vivent dans cette partie du monde. Vous rajoutez les Français expatriés, l'Indo-Pacifique, c'est 2 millions de Français qui vivent tous les jours. Hein. Donc il y a une réalité française que j'ai perçue très rapidement par le hasard de ma carrière et dont j'ai perçu également l'importance.
Ouais, alors, pour faire encore un dernier détour, juste avant de passer à vos fonctions actuelles, il y a un autre volet qui m'intéresse énormément dans votre carrière et dans vos états de service, en quelque sorte, c'est la partie que vous avez vécue à plusieurs reprises de mise au point de nouveaux bâtiments, qui est quelque chose dont on parle sans doute pas assez quand on parle de la marine, parce qu'on se focalise à bon droit sur les bâtiments qui existent aujourd'hui et la manière dont ils sont déployés, mais la marine en permanence lance des nouveaux bâtiments et des nouveaux types, en l'occurrence de bâtiments de surface, et ça vous est arrivé, en fait, au moins deux fois dans votre carrière. Et pour les deux fois, vraiment pour des fleurons de la Marine nationale, ce qui sont devenus des fleurons de la Marine nationale. La première fois, c'était en 1996-1997, autour des frégates type Lafayette, qui étaient les premières frégates furtives françaises. Alors on ne peut pas les rater, c'est vraiment ces contours et ces angles vifs et ces frégates qui ont l'air aveugles, enfin qui n'ont pas du tout les baies vitrées qu'on attend normalement d'un bateau, d'un navire de la Marine nationale, et qui ont fait sensation à l'époque d'ailleurs, même entre les marines mondiales, parce qu'elles étaient vraiment très très furtives, même pour des frégates furtives. Et la deuxième fois, c'était presque 15 ans plus tard, puisque vous avez été l'un des premiers commandants du Fort Bain, l'une des frégates de défense aérienne, alors il y en a deux, il y a Forbin et le Chevalier Paul, qui sont aussi de très très beaux bâtiments, qui servent notamment dans le groupe aéronaval pour protéger le Charles de Gaulle. Alors, bon, et le Forbin, vous en avez été donc le commandant au moment de la fin des tests et de l'admission au service actif. Donc est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces expériences et de ce que ça fait d'assister et de participer en quelque sorte à la venue au monde d'un nouveau type de bâtiment, et en plus dans ces deux cas d'un bâtiment à la pointe de ce qui se fait techniquement dans les marines mondiales?
Alors ça c'est aussi un aspect très enthousiasmant du marin. On a parlé de l'engagement avec les commandos ou les opérations à partir de bâtiments de surface, mais qu'on a vraiment une industrie formidable. Dans ma partie, on parle de bateaux, mais on peut parler aussi de nos avions, nos Rafales aujourd'hui, nos Atlas et tous ces équipements formidables produits de l'industrie française. Et donc, en tant qu'officier de marine, on est formé ingénieur, et pour un ingénieur, c'est formidable ce travail de mise au point, surtout avec toujours à l'esprit, avec notre expérience opérationnelle, et on sait qu'on retournera en opération, cette exigence d'avoir des outils pleinement efficaces. Et sur le Lafayette, c'était la première fois que un État se lançait dans la conception d'un bateau de ce tonnage-là, avec ses formes, hein, vous l'avez rappelé, extrêmement épurées pour chercher la furtivité, qui a été un succès. Tout de suite, quand on a commencé à mesurer la surface équivalente radar de ce bateau, on s'est rendu compte qu'il avait la taille d'un petit pêcheur.
Oui, parce que furtif, rappelons que c'est pas furtif sur l'eau, c'est même très visible, un bâtiment comme ça, très reconnaissable. C'est simplement qu'au radar, c'est minuscule par rapport à la taille que ça fait.
Exactement, et quand on a été amené à faire des opérations dites spéciales, c'est-à-dire mise en place à terre d'équipes, dans les tests qu'on conduisait, c'est l'hélicoptère qu'on voyait décoller de nulle part, parce qu'il sortait du hangar du Lafayette. On mettait l'équipe qu'il y avait à avoir à bord et on le faisait décoller, et il apparaissait au moment où il décollait. Mais avant, il était invisible parce que furtivité et ses formes qui permettent en fait de réfléchir, de renvoyer dans la bonne direction, là où le radar ne va pas les détecter, les ondes qui sont venues taper sur la coque du bateau. Donc c'était un concept très novateur, et je me souviens à l'époque, une marine de référence était extrêmement critique. Et on se disait, en lisant les articles de Proceedings et autres revues américaines, on se disait, tiens, ils nous critiquent, soit notre affaire n'est pas terrible, soit c'est vraiment tellement terrible que ça leur fiche la trouille, et c'est pour ça qu'ils sont aussi virulents contre nous. Bon, on a bien vu à l'expérience que ce sont des bateaux formidables, qu'on a encore dans nos rangs, dont Singapour et Taïwan sont dotés, et dont ils sont extrêmement contents. Quoi. C'est vrai que les bateaux sont des succès. Hein.
Et c'était plaisant d'être invisible sur l'eau, d'avoir une espèce de cape d'invisibilité.
Moi, je me souviens, dans le cadre, alors vous allez me dire que c'est un exercice, mais dans le cadre d'exercice avec des vedettes rapides qui s'appellent les Sparviero, c'est des vedettes italiennes qui sont sur foil.
Foil, c'est des espèces d'espars qui sont dans l'eau, qui permettent de réduire la surface dans l'eau, voilà,
on fait sortir le bateau, on fait sortir la coque, et on les voit, hein, là, actuellement, la Coupe de l'América ou les épreuves de course à la voile actuelle, c'est ça. Hein, et on voit d'ailleurs des surfeurs qui sont sur foil, comme maintenant, quasiment tout le monde est sur foil. Mais donc, il y avait ces vedettes rapides contre lesquelles qui étaient très difficiles à contrer, parce qu'elles vous détectaient, elles étaient quasiment invisibles, et avec le Lafayette, elles ont essuyé leurs premiers échecs, parce qu'on était capable de les détecter, mieux dotés, parce que nous, on était capable de porter un hélicoptère, et donc c'était extrêmement intéressant de voir cette frégate Lafayette remporter ce genre de succès. Ouais.
Et le Forbin, enfin la classe, donc c'est ce qu'on appelle les classes Horizon, donc le Forbin et le Chevalier Paul. Alors précisons, parce que vous l'avez mentionné rapidement, vous avez fait une grande partie de votre carrière aussi dans le groupe aéronaval, c'est-à-dire autour du porte-avions du Charles de Gaulle. On peut rappeler à cette occasion qu'un porte-avions, c'est quand même relativement démuni d'un point de vue de la défense. Enfin, il y a les avions, mais ça ne marche pas toujours. Donc il faut un groupe aéronaval pour le défendre. Et les classes Horizon, c'est vraiment la pièce maîtresse de ça, c'est vraiment la grosse bête qui permet de défendre le Charles de Gaulle contre à peu près toutes les attaques, tout cas qu'on projette à l'heure actuelle.
Oui, alors le porte-avions, comme son nom l'indique, c'est surtout fait pour mettre en œuvre des avions. Alors il y a aussi des avions de guet aérien, les Hawkeye, hein, donc ça permet quand même de surveiller le dispositif. Mais aussi de mettre en œuvre des Rafales, hein, qui sont des avions multirôles, hein, donc c'est pour faire de la défense aérienne, donc maîtriser l'espace, mais aussi faire de la reconnaissance et également du bombardement. Donc c'est ça le métier d'un porte-avions. Et autour, comme vous le dites, il y a un groupe, il y a un ravitailleur, hein, qui permet d'apporter carburant pour les avions, des vivres pour l'équipage. Il y a un sous-marin qui apporte toutes les qualités d'un sous-marin au sein du groupe. Et puis il y a des frégates qui sont spécialisées dans la lutte sous la mer, hein, c'est ce que font très bien les FREMM aujourd'hui, et la défense aérienne. Et donc c'est le métier des frégates Horizon, Forbin et Chevalier Paul. Et ce qui était formidable dans la mise au point du Forbin, c'était que c'était la première fois que la France avait les capacités de détection des bateaux équivalents de la marine américaine. Donc c'est les Ticonderoga et les Harley Burke. Dans le domaine qui était le mien, qui est le mien à bord d'un Forbin, c'est la référence, ces bateaux, c'est la référence, c'est la capacité.
C'est-à-dire que vous les voyez dans des exercices et vous voyez vous pouviez déjà voir ce qu'ils étaient capables de faire et avant, il n'y avait pas d'équivalent français.
Il n'y avait pas d'équivalent de pouvoir détecter aussi loin et avec la même sûreté. Ça veut dire que quand vous détectez, bon, aussi loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire 400 km. 400 km à partir d'un bateau, alors pas jusqu'au ras de l'eau 400 km, hein, mais en moyenne et haute altitude. Et donc aussi avec une sûreté, ça veut dire que vous n'avez pas de trou. Ce qui vient, vous le détectez avec une probabilité quasiment égale à 1. Donc vous êtes sûr de votre détection et en plus vous voyez très loin. Et ça avant, on ne le voyait pas. Donc quand avec nos bateaux de génération précédente sur lesquels j'ai servi, nous avions des missions d'escorte des porte-avions américains. Il y avait toujours une difficulté américaine à nous confier cette responsabilité pleine et entière. Bon. Et quand les Américains ont découvert le Forbin, on avait fait un exercice, un déploiement opérationnel et puis des opérations avec les Américains dans le Golfe, ils se sont rendus compte de ce qu'on savait faire. Ils sont venus à bord et bon. Et là, il y a vraiment eu un changement d'approche de la marine américaine. Et quand quelques mois après, il a fallu opérer en Libye, c'était la première fois et j'ai eu cette responsabilité, c'était un grand honneur pour moi et pour mon équipage, d'assurer l'escorte du bâtiment de commandement américain en Libye. Ce bâtiment, c'est le Kearsarge, c'est un bâtiment porte-hélicoptère d'assaut.
Qui est un peu plus et remplit à peu près les mêmes fonctions que les PH, enfin les anciens BPC, les PHA aujourd'hui, voilà, les classes Mistral.
Voilà, c'est ça, les classes Mistral. Bon, avec des moyens, un groupe aérien avec des moyens plus lourds que
c'est ce les Américains, quoi.
Voilà, à l'américaine. Mais c'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que l'US Navy confiait à un non-américain au combat en opération. La défense de leur unité de commandement, là où il y avait leur amiral. Et donc, c'était la confirmation de cette reconnaissance qui est confirmée depuis, parce que là, on parle, c'était il y a 10 ans, hein, on parle début 2011, hein, l'opération en Libye, l'opération Harmattan.
Mais oui, et puis on sait que ça s'est poursuivi depuis. Il y a eu, il y a eu des choses de cross-decking, c'est-à-dire d'échanges d'avions entre porte-avions américains et français. Le fait que Charles de Gaulle a pris la place d'un porte-avions américain à un moment. Enfin bon. Mais du coup, c'est intéressant ce côté, ce révélateur américain. C'est-à-dire, c'est ce que vous décrivez dans les deux cas. On pourrait penser que le révélateur des capacités d'un État, c'est quand il est face à un adversaire, etc., de mesurer ce qu'il est capable de faire. Et là, en fait, à chaque fois que vous décrivez, le révélateur des capacités de la marine française, c'est quand elle interagit avec la grosse marine qui est la marine américaine et le respect qu'on est capable ou pas de leur inspirer par les bâtiments.
C'est vrai que c'est un point intéressant, mais ça traduit aussi le degré de confiance que vous avez avec un allié. Alors, on dit toujours que les États n'ont pas d'amis, mais quand même, vous avez des alliés. C'est-à-dire des gens qui acceptent de vous dire comment ils vous perçoivent avec une certaine transparence. et des échanges que nous maintenons. Et typiquement, ce que nous, les opérations que nous avons conduites à travers le monde ces dernières décennies, aux côtés des Américains, pas toujours, mais en contact avec eux le plus souvent, traduisent cette relation de confiance et aussi mettent en avant la qualité de la marine d'aujourd'hui, qui n'a cessé de s'améliorer au fil des décennies. Quoi. Quand je remonte aux premières unités sur lesquelles j'ai été embarqué, je vois cette progression.
Alors, évidemment, ensuite, vous avez poursuivi, après un si beau commandement, vous avez poursuivi votre carrière dans des états-majors, à Paris notamment, comme c'est d'usage. Et on peut dire que vous êtes notamment spécialisé dans les fonctions support, soutien, c'est une des trois grandes branches, disons, dans les états-majors de la marine. Alors, on va pas forcément rester très longtemps dessus, mais simplement, je me demande toujours, qu'est-ce que ça fait de débarquer comme ça pour un marin ? Alors, c'était pas votre premier passage en état-major, évidemment, mais... Bon, au bout de combien de temps est-ce que ça vous manque plus ou cet univers très à part qu'est le navire et la relation qu'on a au bâtiment et à l'équipage quand on est le commandant, quoi.
En fait, moi, comme je le disais, que je suis rentré dans la marine pour naviguer. Donc, je n'ai fait que naviguer jusqu'à mon débarquement du Fort Bain. Donc, ça a été un choc. Ça a été un choc. Quand je dis que naviguer, il y a des exceptions, période de formation, mais elles n'ont pas été si nombreuses. Et il y a eu 2 ans au Quai d'Orsay, où j'étais détaché à la coopération de sécurité et de défense, mais j'ai beaucoup voyagé. Donc ça me convenait bien, et c'était très opérationnel et très, très engagé.
Vous n'étiez pas trop friand du séjour à Paris, quoi, à l'époque ?
Non, et j'en avais été préservé, si ce n'est les 10 mois d'école de guerre. Donc, et ça correspondait à mes aspirations, et puis ça répondait aussi à un besoin de la marine, donc ça allait bien aux deux. Donc on a fait comme ça, sur une durée significative. Bon, après, c'est un changement de vie. Et quand je vois autour de moi, j'ai plein de copains qui, après cette période-là, dernier commandement de vaisseau, ou du moins en tant que capitaine de vaisseau, ben, on part faire autre chose, dans l'industrie ou ailleurs, mais on part faire autre chose. Et moi, j'ai continué au sein de la marine et au sein des armées, parce qu'il y a quand même ce qui est formidable quand on est militaire français, c'est cet engagement permanent. Cet engagement permanent. Nos armées... sont vraiment sur tous les fronts. Et toutes ces années...
Vous avez réussi à vivre un peu par procuration en commandant depuis Paris, mais vous aviez ça permettait de garder un degré de proximité satisfaisant quand même.
C'est aussi, quand on sert en état-major, il y a cette application, quand on parle de fonction support, on sait bien ce que disait... des grands chefs, hein, quand le plan ne passe pas sur le niveau logistique, ben, faut le refaire. Hein. C'est toujours le critère. Hein. Quelquefois, on emploie le terme de soutenabilité, mais c'est bien cette capacité à soutenir, à réaliser. Si on n'y arrive pas, il faut se réorganiser. Et donc, quand on est dans ce domaine-là, c'est vrai qu'on n'est pas à la passerelle d'un bateau. On n'est pas avec une escouade de commando, mais on les soutient et puis on est amené à aller sur les théâtres d'opération. C'est ce que j'ai fait quand j'étais à l'état-major des armées, par exemple au Sahel, puisqu'on a été engagé dès 2013. Et ça correspond à l'époque où j'étais dans ces postes en état-major.
Alors, vous êtes depuis l'an dernier donc à Al Paci, je l'ai dit, donc commandant la zone et les forces maritimes dans le Pacifique. Simplement, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que vos responsabilités, précisément ? C'est-à-dire, parce que on va revenir dessus, mais vous commandez à la fois des forces maritimes, une zone maritime, des forces armées aussi terriennes. Enfin bon, expliquez-nous exactement ce que ça recouvre, cette fonction.
En fait, cette fonction d'Al Paci, c'est ce qu'on appelle un commandement interarmé. C'est d'ailleurs pour ça que je suis cette semaine à Paris. C'est qu'il y avait la réunion des commandants interarmés, donc les amiraux généraux qui sont...
On va préciser que vous n'êtes évidemment pas revenu pour le podcast, mais on
apprécie... Non, mais je suis content.
D'être là. On est ravis que vous ayez pris du temps pour faire accrocher. Mais évidemment, vous aviez des choses plus importantes à faire à Paris.
Voilà. Et donc, c'est un commandement interarmé. Donc, avec une responsabilité sur une zone donnée. Et donc, Alpaci, c'est la protection de la Polynésie et les Polynésiens. Donc, l'ensemble de la Polynésie et les Polynésiens, c'est 300 000 personnes, mais c'est aussi 5 millions de kilomètres carrés. Donc, la taille de l'Europe, c'est immense. Et il s'agit d'assurer la souveraineté de la France dans cette zone-là. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est la défense des intérêts français dans l'ensemble de la zone Asie-Pacifique. Donc la zone Asie-Pacifique, quoi, le Pacifique, on sait que ça couvre la moitié du globe. Donc c'est une zone énorme. Et donc la responsabilité du chef militaire français que je suis, c'est de commander les forces qui y sont déployées. Qu'elles viennent de Tahiti, qu'elles viennent de Nouméa, de La Réunion ou qu'elles viennent de métropole.
C'est ce que j'allais dire, c'est ça qui est aussi un peu marquant dans cette affaire, c'est le décalage gigantesque entre l'espace que vous avez à gérer, déjà les territoires et les zones économiques exclusives françaises, mais aussi la zone maritime, donc qui est l'océan le plus vaste du monde, c'est tout quoi. Et au fond, le peu de monde et de moyens que vous avez, parce qu'il me semble que vous avez entre 2 et 3000 personnels militaires à disposition, et globalement deux bâtiments principaux qui sont des frégates. Donc, comment est-ce qu'on gère ce décalage énorme entre responsabilité et outils, en quelque sorte ?
Alors, c'est vrai que la zone est grande, la zone est immense quand on parle d'Indo-Pacifique, mais la France est un pays riverain de cette zone et aussi le seul pays d'Europe à être présent en permanence à partir de ces territoires d'outre-mer. Donc l'ensemble des forces armées, c'est quand même 7000 militaires en permanence, une quinzaine de bateaux, une quarantaine d'aéronefs de tout type. Donc,
ça, c'est dans tout l'Indo-Pacifique.
C'est dans tout l'Indo-Pacifique. Donc c'est en fait les bases de La Réunion, Nouméa et Tahiti, avec vous l'avez évoqué, des moyens qui ont vocation à passer d'un théâtre à l'autre. Par exemple, je vous disais que j'ai commandé à La Réunion une frégate, ça s'appelle le Nivose. C'est un bateau qui a commencé sa carrière à Nouméa. Donc il y a une présence permanente qui, à l'échelle de notre pays, est significative et qui est renforcée périodiquement par le groupe aéronaval, donc le groupe du Charles de Gaulle, par le groupe Jeanne d'Arc, donc cette année le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre et la frégate Surcouf, par un sous-marin, l'Emeraude, qui est venu également pour un long déploiement de 7 mois, dont 3 mois dans le Pacifique, et par aussi des moyens des autres armées, par exemple le groupe Jeanne d'Arc, qui a fait une opération, un exercice amphibie au Japon, avec la 6e brigade de l'armée de terre, et donc des légionnaires qui sont venus conduire cet exercice avec les Japonais et les Américains. Et la semaine prochaine et la semaine d'après, des rafales, des avions de transport A400M, des avions ravitailleurs MRTT, qui vont venir opérer à Tahiti et à Hawaï avec les Américains. Donc il y a un dispositif, une armée complète qui est en mesure d'intervenir aussi loin de nos bases métropolitaines. Mais,
alors on va y revenir, parce que ça pose évidemment la question de la présence stratégique et des intérêts stratégiques de la France dans la région. Mais simplement, je pensais même, d'un point de vue tout banal, enfin, vous avez un territoire gigantesque, enfin, je sais pas, même, vous bougez beaucoup, parce que, enfin, c'est-à-dire les emprises françaises sont aussi très éloignées, très éparpillées. Enfin, est-ce que vous restez à Tahiti ? Est-ce que vous voyagez en permanence ? Parce que dès qu'il faut aller quelque part, ça fait plusieurs heures d'avion, plusieurs jours de mer. Qu'est-ce que c'est concrètement au quotidien de gérer tout ce territoire, quoi ?
Alors, y a la nécessité d'être présent. Le chef, mais aussi les équipes, quelle que soit l'armée d'appartenance. Donc il est important... Et c'est ce que l'on fait en Polynésie, ou aussi dans l'ensemble de la zone Asie-Pacifique, d'être présent par des sections de l'armée de terre, par des avions de l'armée de l'air ou de la marine, et par des bateaux de la marine. Donc moi-même, en tant que chef, en tant qu'amiral, je me déplace pour rencontrer mes alter ego. Et il y a quelques semaines, j'étais par exemple à Hawaï. Alors, avec la Covid, ça a compliqué les choses, mais... On a pu continuer à travailler par, par visioconférence à distance, et aussi par des rencontres. Il y a des très bonnes compagnies aériennes où il y a des très bons avions militaires qui permettent, de, malgré les distances, et Dieu sait si elles sont importantes, de se rencontrer.
Ouais, et alors si on peut détailler en quelque sorte l'activité des armées, quoi, des forces qui sont sous votre commandement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est les missions ? Il y a la présence stratégique, on va en reparler juste après, mais même en termes quotidiens, je veux dire, on sait que l'armée ou les armées françaises ont un peu un rôle de présence étatique en dernier recours et aussi en premier contact dans une certaine mesure, voire de ligne de vie parfois avec certaines îles qui peuvent être particulièrement isolées. C'est vrai en océan Indien notamment, mais est-ce que c'est vrai aussi dans le Pacifique ? On imagine qu'il y a aussi la lutte contre les trafics, etc. C'est-à-dire, c'est quoi les missions des forces armées françaises dans le Pacifique ?
Les missions, donc il y a la souveraineté sur nos territoires, ça veut dire protéger nos territoires, les surveiller, donc savoir ce qui s'y passe, grâce à des surveillances satellitaires, mais aussi avec nos avions, nos bateaux, typiquement de façon très concrète. Nous avons un espace maritime très important en Polynésie et il s'agit que seuls les pêcheurs autorisés pêchent dans nos eaux. Donc, c'est ce qui se passe et ça nécessite surveillance par bateau et par avion. C'est l'une des missions des forces armées. De la même façon, souvent l'État a des moyens comptés dans cette partie du monde. Et donc, quand on a un concitoyen qui a un problème médical, l'évacuation sanitaire, en particulier si c'est une île isolée, si c'est la nuit, seuls les pilotes militaires savent aller chercher les blessés dans ces conditions. Et donc, ce sont des avions de l'armée de l'air ou de la marine qui vont faire ces évacuations sanitaires. Donc, ça fait partie aussi de ces interventions. C'est aussi des missions de présence, les sections du régiment d'infanterie de marine qui est basé à Tahiti, qui vont dans les différentes îles marquer la présence française, mettre à jour des dossiers de site, c'est-à-dire bien connaître les îles, les conditions d'accostage, les conditions d'atterrissage pour les avions, d'accostage pour les bateaux, et puis aussi rencontrer la population, conduire des opérations à leur profit. Ça peut être les aider à retaper tel ou tel bâtiment, à débroussailler telle ou telle zone pour que la force que je commande soit parfaitement insérée dans la population française. Et ça se passe très très bien en Polynésie et ça fait partie de la mission. Il y a quand même 118 îles qu'on s'impose de voir au moins une fois tous les trois ans. Ça peut paraître pas beaucoup, mais 118, ça fait beaucoup.
Ouais, donc, et puis il y en a qui sont très loin. Il y a notamment, je me suis rappelé qu'il y avait un petit îlot qui s'appelle Clipperton qui est quasiment le long des côtes du Mexique. Et entre la Nouvelle-Calédonie et là, c'est juste tout le Pacifique qui est à couvrir, quoi.
Ouais. Donc effectivement, les distances sont immenses. Mais c'est ce qui fait que nous sommes légitimes dans cette partie du monde, c'est que la France assume ses responsabilités. Quand vous êtes en Polynésie et que vous partez ailleurs, que vous traversez le Pacifique, par exemple, entre Tahiti et Nouméa, vous rencontrez des États où les conditions de vie sont différentes. Et ce qui est certain, c'est que c'est moins confortable. Alors, je ne vais pas me lancer dans un débat philosophique. Est-ce que les gens sont plus heureux ou moins heureux ? En tous les cas, ils sont dans des conditions de confort matériel bien moindres.
Qu'en
Polynésie française ou en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie.
Mais alors justement, ce que vous décrivez, c'est qu'il y a une compétence spécifique, quoi. Il y a un savoir-faire pour la Polynésie, pour les missions qu'il y a. Justement, est-ce qu'il y a un gros brassage ? Est-ce qu'il y a une sorte de spécialisation pour certains militaires sur la Polynésie ? Est-ce qu'il y a des gens qui restent là longtemps, voire très longtemps, parce qu'ils savent très bien faire certaines missions spécifiques ? Ou est-ce que vous imposez, vous astreignez en quelque sorte à un brassage pour pas qu'il y ait les militaires polynésiens et les autres ? Comment est-ce que ça se gère, disons, à un théâtre si particulier, en ressources humaines, quoi ?
Alors, d'abord, la Polynésie se trouvait un des territoires français qui fournit le plus de volontaires pour joindre nos armées. Garçons et filles, j'ai dit une population d'un peu moins de 300 000 personnes, il y a 600 garçons et filles tous les ans qui rejoignent les armées françaises. En termes de taux, c'est très important.
Et tous les militaires de l'armée de terre parlent souvent des grands gaillards polynésiens qui récupèrent dans les unités, qui sont toujours quelque chose d'étonnant.
Voilà, il y en a sur nos bateaux, il y en a dans nos escadrons de l'armée de l'air, il y en a dans nos régiments de l'armée de terre. Donc ça c'est une première chose. Il y a des gens qui viennent du territoire et donc qui peuvent y revenir. Le fonctionnement traditionnel des armées françaises, c'est une affectation entre 2 et 4 ans, et c'est vrai aussi pour la Polynésie. C'est-à-dire que moi, j'ai des garçons et des filles qui viennent entre 2 et 4 ans pour servir en Polynésie, qui vont retourner ailleurs pour avoir une autre affectation, un autre poste, en cohérence avec leurs compétences, mais ils ne resteront pas plus longtemps. Il y a ce brassage, ce renouvellement... Qui est le mode de fonctionnement des armées françaises.
Alors, si on passe maintenant à un point de vue plus stratégique, géostratégique, évidemment on sait que le gros fait géostratégique de la zone, c'est la montée en puissance, mais aussi la montée en tension de la Chine du point de vue maritime. Depuis quelques années, disons, je peux mentionner qu'on a fait une émission entière sur la question avec Alexandre Sheldon Duplay il y a quelques mois, si on veut vraiment aller au fond des choses du point de vue capacitaire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est clairement votre responsabilité, et les forces qui relèvent d'Alpacy ont vraiment un rôle là-dedans. Alors c'était avant votre arrivée, mais on peut mentionner que par exemple la frégate Vendémiaire, qui est basée à Tahiti, a été au centre de tension en 2019, parce qu'elle est passée par le détroit de Taïwan, que les Chinois ont affirmé que c'était une violation de ce qu'ils considèrent leurs eaux territoriales. On ne va pas revenir sur toutes les revendications chinoises dans la zone, mais ce qu'on appelle la ligne des neuf traits, etc. Le fait qu'ils considèrent un peu que toute la mer de Chine méridionale est à eux, ce avec quoi pas beaucoup d'autres puissances sont d'accord. Mais bon, clairement, c'est une posture revendicatrice de plus en plus affirmée qui est prise par la Chine dans cette zone-là, dans le domaine maritime. Et d'ailleurs, on peut dire que le chef d'état-major de la marine, donc l'amiral Vandier, a récemment fait un entretien... très franc, avec beaucoup de franchise dans le monde, où il dénonçait vraiment ce type d'action avec une candeur assez intéressante, disons. Donc voilà, simplement, comment est-ce que ça se caractérise au quotidien, cette montée en tension? Alors il y a le grand fait, l'intérêt des États-Unis pour la zone, les tensions géostratégiques, mais simplement quand on gère des forces au quotidien, c'est-à-dire des hommes, des navires et des actions concrètes, voilà, qu'est-ce que vous voyez?
Alors, la réalité, c'est vrai que vous avez deux grandes puissances, de part et d'autre du Pacifique, et au travers du Pacifique, qui sont présentes. Les États-Unis d'Amérique, qui, depuis la chute de l'Union soviétique, dominent très clairement le domaine stratégique et le monde, et cette partie du monde. Et puis la Chine qui monte de façon extrêmement rapide ses capacités militaires. Et vous avez vu des annonces claires, hein, en particulier du côté américain, qui reconnaissent l'extrême puissance que constituent les forces armées populaires chinoises. Donc il y a cette réalité d'aujourd'hui, en 2021, qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Donc on voit bien qu'il y a le risque d'une montée aux extrêmes, qui pour l'instant sont verbales, mais montée aux extrêmes, la Chine se laissant emballer, si je puis dire, emporter par son élan de puissance qui augmente de plus en plus ses capacités, ou les États-Unis d'Amérique qui, n'acceptant pas de se voir supplanter, réagiraient militairement et violemment. Donc ce risque-là, c'est une réalité. On voit les annonces politiques australiennes récemment, ou militaires américaines, ou d'autres responsables à travers le monde, dire qu'il y a un risque à court terme. Court terme, ça veut dire... 2025, quoi, c'est ce qu'on lit dans la presse aujourd'hui, donc c'est demain. Donc il y a bien cette montée aux tensions, et la France qui porte, avec d'autres, mais qui se veut le défenseur d'une troisième voie. C'est quoi une troisième voie? C'est que on ne va pas se mettre dans les eaux de l'un ou de l'autre, et on cherche à résoudre les conflits, les tensions qui sont réelles, par le dialogue, par la négociation, par les partenariats que l'on peut monter, que l'on peut construire avec les partenaires de la région. Et donc c'est exactement ce qu'on cherche à faire aujourd'hui avec les Australiens, avec les Japonais, de façon à pouvoir, par le dialogue, résoudre encore une fois des raisons de tension, en particulier territoriales.
Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que c'est aussi, enfin, il y a la tension abstraite, conceptuelle, dont tout le monde est conscient, enfin, il y a un effort doctrinal là-dessus aussi, et puis les tensions, c'est aussi, ce que disait l'amiral Vendier récemment, c'est aussi des trucs, voilà, c'est des tensions entre bâtiments, quoi, c'est des bâtiments qui doivent, des trucs de mer, quoi, des bâtiments qui doivent manœuvrer parce qu'il y a un bâtiment adverse qui a l'air hostile, etc. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui arrive, quoi, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. C'est un truc quotidien, ou est-ce que c'est un truc un peu diffus qu'on interprète au sein d'un grand cadre conceptuel qui est la montée de la Chine?
Alors, ce qui est réel, c'est que aujourd'hui, la Chine est présente militairement, en particulier par ses bateaux. En revanche, c'est pas parce que vous êtes présent et que lorsqu'il y a un bateau d'un autre pays, que vous le marquez, c'est-à-dire vous êtes à proximité.
Vous le marquez, c'est-à-dire une illumination radar notamment.
C'est-à-dire vous êtes à proximité de lui, donc quelques nautiques, en kilomètres, vous êtes à 10-20 kilomètres, donc vous êtes à portée radar, voire à portée optique, mais vous n'êtes pas menaçant, vous êtes simplement présent parce qu'il y a un militaire dans la zone. Mais pour reprendre votre exemple du détroit de Taïwan avec le Vendémiaire en 2019, depuis, d'autres frégates sont passées, le Prairial et le Surcouf par exemple, sont des bateaux qui sont passés dans ce détroit. Il n'y a pas eu de... Il y avait un marquage, hein, il y avait une présence de la marine chinoise, mais nos bateaux ont pu... conformément au droit international, ils ont pu naviguer. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres endroits où, quand on vient à proximité des côtes chinoises, mais en dehors des eaux territoriales, il peut y avoir des comportements plus agressifs des bateaux chinois qui sont inacceptables et qui font l'objet de contact avec les autorités chinoises pour demander que ces affaires cessent c'est des choses qui peuvent arriver effectivement.
Ouais, mais du coup ça pose la question du rôle de la marine française de ce point de vue là parce que on peut mentionner que ça fait partie des grandes déclarations, enfin, de la position de la France, quoi, l'idée que la France est attachée à une navigation libre dans cette zone là alors j'ai commencé à le dire, il y a des revendications de la Chine en termes de zone maritime, notamment à l'idée que toute la mer de Chine méridionale serait à elle en quelque sorte. Et du coup, la France, mais comme les États-Unis, comme d'autres puissances aussi, qui dit, non, il faut pouvoir passer par là, parce que c'est la Convention du droit de la mer, c'est le droit international. Donc la question, c'est, est-ce que du coup, il faut passer là par là pour toujours continuer, prouver qu'on peut toujours passer par là, et pour ne pas, laisser... Je veux dire, si on n'y allait plus, il y aurait une sorte de logique de fait accompli, peut-être, et qui donnerait droit aux revendications chinoises. Donc est-ce que, dans une certaine mesure, la marine française est mobilisée pour toujours vérifier que notre position est bien valable et bien accomplie dans les faits, quoi.
La marine française et les forces armées françaises, parce que c'est le même principe avec des avions, les forces armées françaises réaffirment le droit, non pas pour le droit international, non pas pour le réaffirmer, mais l'applique, l'utilise pour pouvoir opérer comme il est possible de le faire. À partir du moment où on est en haute mer, quand on est dans un espace dit commun, chacun peut l'utiliser en respectant les règles de navigation, hein, de façon à éviter les abordages en mer. Il y a des règlements internationaux qui sont parfaitement clairs pour définir les espaces dans lesquels on peut... les espaces qui sont communs, hein, dans lesquels on peut naviguer et voler librement. et les règles qu'on doit appliquer pour éviter de se rentrer dedans. Et donc c'est ce que fait la France, c'est ce qu'a fait la France avec le sous-marin Emeraude, ce qu'a fait la France avec le groupe Jeanne d'Arc, qui a navigué de concert avec un groupe australien en mer de Chine méridionale et en mer de Chine orientale. Et ça s'est fait, certes, avec la présence d'unités d'autres pays, mais sans difficulté particulière. Et l'intérêt pour notre pays, c'est bien de continuer à connaître ces zones-là pour être à même d'y opérer. Il faut périodiquement y aller pour connaître les caractéristiques de la zone, qui sont différentes entre l'Extrême-Orient, le Golfe arabo-persique, la mer Rouge, la Méditerranée, l'Atlantique Nord.
C'est-à-dire, si on navigue pas dans un coin, au bout d'un moment, on sait plus tellement comment y naviguer. Donc il faut actualiser des compétences et les capacités de déploiement de la marine, quoi.
Exactement. Il peut y avoir les conditions de météorologiques, océanographiques, hydrographiques, qui font que il est important d'y aller périodiquement, d'y évaluer les capacités de nos senseurs, que ce soit nos radars, nos sonars, d'évaluer les capacités des autres, hein, qui sont là, qui nous voient passer ou qui ne nous voient pas passer. Bon, ça, tout ça, ce sont des informations qui sont importantes de posséder et de maintenir à jour.
Ouais, mais alors du coup, ça pose la question du rôle et de la place de la marine française toute seule et par rapport aux autres. C'est-à-dire, il me semble que c'est un peu aussi les limites de la chose. C'est-à-dire, la France a beau se penser comme une puissance du Pacifique ou de l'Indo-Pacifique, en même temps, on se rend bien compte que les forces du Pacifique peuvent évidemment pas du tout faire face militairement à ce que pourrait déployer la Chine. C'est naturel. Et pour le dire un peu crûment, il me semble que si la Chine se décide à faire une action agressive d'une manière ou d'une autre contre Taïwan, j'ai peur que ce soit pas le Vendémiaire ni le Pré-Riel qui réussissent à arrêter toute la marine chinoise, quoi. Donc ma question, c'est comment est-ce que vous concevez votre action au quotidien et vos possibilités d'action si jamais il se passe quelque chose, parce qu'il peut se passer quelque chose, on comprend que c'est le risque qui monte. Évidemment, vous l'avez dit, il y a aussi toute la marine française derrière, mais l'espace est têtu en quelque sorte, et c'est très loin. Quand même, c'est pas l'endroit où la marine nationale est majoritairement la plupart du temps. Donc voilà, comment est-ce que vous concevez vos capacités d'action entre les forces de la marine et puis peut-être aussi une architecture plus régionale avec des alliés qui ont des forces plus proches, eux?
Alors il y a clairement une stratégie de partenariat. La France l'a affichée, hein, stratégie de partenariat. On a cité dans notre conversation nos grands partenaires, hein, nos alliés américains, l'Australie, le Japon, qui est aussi un partenaire significatif, mais aussi d'autres pays comme Singapour, la Malaisie, avec lesquels on opère, la Nouvelle-Zélande également. Et donc, pays qui n'ont pas tous les mêmes capacités, mais l'un plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, finit par constituer une marine et des forces armées extrêmement significatives. Et c'est aussi le sens du déploiement, des déploiements. On a évoqué les déploiements de la marine avec le sous-marin ou le groupe amphibie, mais aussi le déploiement de l'armée de l'air, donc des moyens de haute intensité qui viennent du territoire national et qui se déploient à l'autre bout de la planète, avec des capacités dissuasives, hein, puisque ces moyens-là sont des moyens qui peuvent porter l'arme nucléaire, donc la dissuasion. Hein. Faut pas oublier que notre pays est un pays doté de l'arme nucléaire, hein, donc il y a un côté dissuasif réel.
Ouais, mais alors il y a les alliances, il y a les partenariats sur le papier, enfin il y a un truc diplomatique, quoi, évident, et ça c'est effectivement assez bien avancé depuis quelques années, même si On peut mentionner que les pays de la région n'ont pas toujours été 100% alignés avec la France pour considérer la France comme une nation riveraine, disons, locale. Il a pu y avoir des légers décalages là-dessus. Mais on sait qu'ensuite, les alliances militaires, notamment, il faut que ça marche, quoi. Il faut qu'il y ait de l'interopérabilité, il faut qu'il y ait une habitude à coopérer ensemble. Alors on sait que la marine américaine, bon, c'est plus à approuver, parce que c'est deux nations otaniennes, la France et les États-Unis, et que donc il y a une habitude à s'entraîner à opérer ensemble. En revanche, bon, le Japon, l'Australie, c'est quand même moins habituel, même si on vend des sous-marins. Enfin bon, il peut y avoir différents niveaux de partenariat, mais on ne peut pas dire que les exercices, les entraînements soient si fréquents que ça. Il y en a eu un récemment. Mais voilà, quelle est, disons, la montée en capacité que la Marine nationale et que les forces armées françaises cherchent à avoir de ce point de vue-là? Et donc, quels sont les moyens qui seront donnés pour apprendre à interagir entre pays qui collaborent dans cette région pacifique, quoi.
Vous avez balayé l'ensemble de la question et des réponses possibles. Il s'agit bien d'opérer ensemble dans cette partie du monde avec des moyens qui soient amphibies, qui soient de projection de puissance, c'est-à-dire le groupe aéronaval. Et ce sont des exercices qui ont été faits récemment. Hein. Par exemple, j'ai évoqué l'exercice au large du Japon Arc 21 dans le domaine amphibie.
Des exercices. Ça a bien marché. Parce qu'en fait, on parle toujours quand il y a des exercices qui se passent. On n'a jamais de retour. On ne sait jamais ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Est-ce que c'était une grande satisfaction? Est-ce que ça a été la conclusion? Ça a été, bon, bah, y a encore un chantier, il faut vraiment répéter ça plus souvent, etc. Quelle a été la conclusion de ça, quoi?
Il y a clairement le fait qu'on a été capable de conduire un exercice de haut niveau amphibie avec trois pays dans une zone où nous n'avions jamais opéré ensemble. Donc ça, c'est une grosse satisfaction.
Rappelons, l'exercice Arc 21, c'était un exercice théorique pour reprendre un îlot qui serait occupé. On voit bien éventuellement quelle peut être la pensée derrière, quoi.
Et donc ça a nécessité une grosse préparation avec les états-majors. Et après, les unités qui ont décliné. Quand on conduit un exercice comme ça, il y a une certaine progressivité pour éviter justement des incompréhensions, des... Mais on sort meilleur après avoir pratiqué qu'au moment où on commence l'exercice. Mais le but, et là, l'exercice Arc 21 s'est bien déroulé de ce point de vue-là, il y a une certaine progressivité qui a permis de ne pas mettre nos équipages, nos sections, nos pilotes en situation de risque qu'ils n'auraient pas maîtrisé. Donc c'est par la progressivité et la pratique. En plus, quand on envoie des unités, ce sont des unités qui, déjà en national, maîtrisent bien leur savoir-faire. Donc là, après, elles se retrouvent ensemble. Donc il y a des questions, il peut y avoir la barrière de la langue, il peut y avoir des difficultés de connexion, les systèmes de communication qui ne sont pas tout de suite interopérables. Donc ça, il peut nécessiter des temps de calage, mais justement, on se donne le temps De monter en puissance, et donc de ce point de vue-là, cet exercice a répondu aux objectifs fixés.
Et c'est, je sais pas du tout, c'est prévu de le refaire, enfin, on s'est donné rendez-vous, enfin les armées se sont donné rendez-vous dans 6 mois, 1 an, 2 ans, enfin, ou est-ce que c'est à voir en fonction des capacités, des disponibilités de chacun, quoi.
Ouais, le but effectivement est de conduire, pas obligatoirement au large du Japon, mais il y avait un exercice qu'on avait conduit quelques temps avant dans le golfe du Bengale. Donc c'est bien un exercice périodique, donc périodique annuel ou tous les 2 ans, dans la zone Indo-Pacifique. C'est un objectif de se retrouver périodiquement sur des thèmes différents, pas toujours faire un grand exercice amphibie, mais de façon à prendre l'habitude d'opérer ensemble.
Ouais, et alors pour terminer en quelque sorte, j'aimerais simplement dire un mot du concept même d'Indo-Pacifique, qu'on a beaucoup mobilisé, on a vu que ça avait une traduction opérationnelle dans une certaine mesure, mais c'est vraiment, on peut le dire, le gros concept qui monte, qui est entré même dans les vocabulaires stratégiques des différents états-majors et ministères depuis quelques années, depuis 2016 en France, au moins, En 2018, les États-Unis ont renommé leur commandement pour la zone Pacifique, commandement Indo-Pacifique. Donc ça dit quelque chose de l'importance du concept. Et en même temps, on peut mentionner que c'est aussi un concept qui est assez critiquable et critiqué d'ailleurs, parce que ça désigne les océans Indien et Pacifique, donc c'est évidemment une superficie incroyablement gigantesque, avec une diversité de situations et de dynamiques stratégiques à peu près infinies à l'intérieur de tout ça. Et puis aussi, parce que ça a pu être vu comme un concept un peu anti-chinois, disons. En tout cas, ça a pu être perçu comme ça, comme quelque chose qui était utilisé par des puissances qui pensaient en ces termes pour essayer d'endiguer, disons, la montée de l'influence chinoise dans la région, quoi. Alors, vous n'êtes pas tout l'Indo-Pacifique vous-même, vous êtes le Pacifique, il y a un Al-Indien pour s'occuper de l'océan Indien, mais même si vous coopérez évidemment, mais donc comment est-ce que vous le comprenez, vous, c'est-à-dire ce concept, et comment est-ce qu'il informe votre action, quoi ?
Le concept, c'est déjà une réalité qu'il y a deux océans qui sont physiquement connectés.
Tous les océans sont physiquement connectés.
Si je puis dire, plus ou moins naturel, c'est-à-dire que le passage de l'océan Indien à l'océan Pacifique est réciproquement, vous n'avez pas cette barrière que vous avez à l'ouest par l'Afrique, vous pouvez contourner par Bonne-Espérance et Suez, ou à l'est par les Amériques, vous pouvez contourner par l'Orne, le Cap Horn, Panama, ou la route du Nord également maintenant. Donc vous avez quand même par les détroits indonésiens une jonction de ces deux espaces. Donc ça, c'est la première réalité physique qui fait que d'avoir une approche globale paraît physiquement, géographiquement pertinente. La deuxième réalité, c'est que nous avons des territoires sur ces deux océans avec des caractéristiques qui peuvent être comparables, qui sont proches. Je pense à la Réunion-Mayotte, je pense à la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, et la Polynésie française. Donc ça, on a bien dans cet ensemble-là une présence française avec ces territoires qui ont encore une fois des caractéristiques proches. Et puis, il y a aussi la réalité économique, où on voit que c'est un espace d'échange commercial extrêmement actif, par voie de mer en particulier. Et même si aujourd'hui l'organisation du commandement français distingue l'amiral en charge de l'océan Indien de l'amiral en charge du Pacifique, il y a bien cette nécessité de coopérer, puisque les flux économiques passe bien d'un océan à l'autre, avec des commerces avec l'Extrême-Orient, le golfe arabo-persique et ses ressources pétrolières et gazières. Donc cette approche sur l'ensemble de l'Indo-Pacifique me paraît à ces titres cohérente.
Et comment est-ce que... Bon, on a compris que c'est... Bon, la montée de la Chine, on a vu qu'il y avait un volet militaire, ça c'est sûr, mais on sait que dans la région Indo-Pacifique, c'est une montée qui est très multiforme. Il y a beaucoup, ça passe aussi beaucoup par des investissements, ça passe beaucoup par des prises de position du secteur privé, du secteur public, mais c'est jamais très clair la distinction avec la Chine. Alors on va pas forcément parler de l'océan Indien, parce que c'est pas votre domaine primordial. Mais en océan Pacifique, on sait que, par exemple, il y a un grand phénomène depuis les années 2000, c'est la montée de la Chine en Océanie et la montée de l'influence. Alors il y a eu un moment la rumeur de l'ouverture d'une base militaire au Vanuatu, ce qui aurait été quand même gênant parce que c'est vraiment pas très loin de territoire français. Il y a certains pays, par exemple les Tonga, qui sont le royaume de Tonga, qui est très endetté envers la Chine, et on sait que c'est souvent un levier que la Chine peut actionner à terme. On sait aussi qu'il y a un certain nombre d'archipels ou de territoires qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec Taïwan pour préserver leurs liens avec la Chine. Donc, bon, c'est un domaine pas qu'il y ait à apprendre, mais on sait que c'est pas exactement des mastodontes militaires ni diplomatiques, ces États-là, ces confédérations d'îles en général. Donc, et si la Chine prend vraiment des positions, si ça se matérialise, ça peut devenir ennuyeux. Enfin, en tout cas, ce sera un gain net d'influence chinoise. Donc, comment est-ce que vous voyez ça au quotidien depuis là où vous êtes? Et comment est-ce que vous concevez votre rôle, ou pas? Peut-être que vous considérez que ça ne vous concerne pas, mais disons votre rôle, le rôle de la France, et puis votre rôle en tant qu'acteur militaire, et disons vos chances et leviers pour limiter ou ralentir, disons, l'extension de cette influence chinoise vraiment aux portes des zones économiques françaises.
Alors, la première chose, c'est que la France doit être souveraine dans ses territoires et zone associée. Quand je dis zone associée, je pense, vous l'avez compris, zone économique. C'est le cas. C'est le cas autour de la Réunion Mayotte, c'est le cas autour de la Nouvelle-Calédonie, c'est le cas en Polynésie. Donc ça, c'est un premier point. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des forces militaires, hein. Des avions, des bateaux, des sections de l'armée de terre pour être à même de réagir s'il y avait des velléités de qui que ce soit. Vous évoquez la Chine, mais il peut très bien y avoir un voisin qui aurait des velléités de venir opérer chez nous. Donc ça, c'est la première chose, c'est assurer la souveraineté et donc ça, c'est important. Je considère que c'est fait, c'est du moins ma perception de la situation. La deuxième chose, c'est que la France, qui prône le respect du droit international, le multilatéralisme, ne ferme la porte à personne. Moi, dans ma responsabilité de commandant interarmé de la zone Asie-Pacifique, ma responsabilité, j'ai des alliés et des partenaires que j'ai cités lors de notre conversation, mais j'ai aussi des compétiteurs avec lesquels je cherche à maintenir un dialogue. Mon prédécesseur a été en Chine et mon alter ego chinois est invité à Tahiti. Bon, pour l'instant, ça ne s'est pas fait, mais il y a bien cette volonté française de maintenir le dialogue pour être à même d'éviter une méprise et des conséquences fâcheuses si, suite à une incompréhension, on était amené à faire parler les armes.
Donc, rappelons que c'est aussi à ça que sert beaucoup du décorum militaire et de la sociabilité, les invitations, les dîners, les visites officielles, etc. C'est aussi à se connaître. Enfin, je veux dire, ça doit être plaisant, mais c'est pas particulièrement que pour le plaisir. C'est aussi parce que se connaître, ça permet que si jamais il y a un truc, au moins on n'imagine pas un autre aux intentions ultimement sinistres. On a rencontré quelqu'un et ça peut permettre d'apaiser des tensions le cas échéant.
Exactement. Donc il y a cette volonté de dialoguer avec les autorités de tous les pays de la zone, y compris la Chine. Après, pour éviter que nos voisins, qui sont potentiellement nos partenaires, n'aillent voir ailleurs, il faut que nous soyons bons. Et on peut être bon déjà en étant en mesure de les assister quand ils en ont besoin. Ce sont les missions d'assistance humanitaire. Donc là, il y a un protocole australien, néo-zélandais, français, l'accord France, qui permet d'organiser une réaction face à un territoire du Pacifique Sud qui aurait été frappé par un cyclone. Et donc ça, c'est une capacité, un savoir-faire que la France maintient en organisant tous les ans un exercice, soit du côté de la Calédonie, on appelle ça Croix du Sud, soit du côté de Tahiti, on appelle ça Marara, pour maintenir ces savoir-faire, on fait ça tous les ans. Et il y a aussi dans le domaine de l'action de l'État en mer, donc la police des pêches, la lutte contre le narcotrafic, une volonté de développer nos relations avec nos partenaires du Pacifique Sud pour les aider à mieux faire respecter leur souveraineté sur les eaux, les territoires qui sont les leurs. Donc là, le troisième volet, c'est nous, Français et Européens, avec l'aide des Européens autant que possible, être présents et offrir une solution à ces partenaires potentiels. Sinon, ils iront voir ailleurs.
Très bien. Merci beaucoup, Amiral Rey, d'avoir fait un crochet donc par le studio de l'IRSEM à l'occasion de votre passage par Paris. Bon retour à Tahiti aussi. Alors, je signale à tout hasard, à ceux que ça intéresserait particulièrement, ce concept d'Indo-Pacifique, qui est un excellent numéro de la revue Diplomatie, qui date d'octobre-novembre 2019. Diplomatie, c'est la revue un peu sœur de notre partenaire DSI, qui fait très efficacement le point sur la région Indo-Pacifique. Évidemment, ça a bougé depuis 2019, mais c'est tellement conceptuellement approfondi que c'est un numéro qui par ailleurs est un partenariat avec l'IRSEM, mais il faut que je le précise, mais qui fait tout à fait le point et donne les clés de compréhension des dynamiques profondes. Merci beaucoup, Amiral.
Merci Alexandre, merci à tous.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous donner votre avis sur l'émission en laissant notes et commentaires sur Apple Podcasts ou sur SoundCloud. Ça aide l'émission. Et que vos retours sont aussi grandement appréciés par mail à collimateur@tirsen.fr ou sur les réseaux sociaux de l'Institut. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.